Bonsoir tout le monde si vous écoutez ce magazine en direct, ou bonjour tout le monde si vous écoutez la rediffusion du matin ou du midi. Il a fait à nouveau beau et chaud aujourd'hui. On vient de passer un été qui nous a presque fait oublier ce que sont les nuages et la pluie, pour le plus grand bonheur des vacanciers d'un côté et pour le plus grand malheur des agriculteurs et des éleveurs de l'autre. On va donc revenir sur la sécheresse de cette année, sur son impact sur le manque de foin et parler de différents modèles de pâturage avec Johanna Corbin, éleveuse de brebis Limousine à la ferme de Lachaud, ferme installée sur la commune de Jansioux-Pigerolles, et avec Frédéric Lagarde, conjoint collaborateur et membre du Champ des Possibles, une association qui étudie la relation entre changements globaux et biodiversité. Johanna, Frédéric, bonjour, bonsoir, est-ce que vous allez bien ?
Bonsoir, ça va bien.
Bonsoir, ça va bien aussi.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette ferme de Lachaud ?
Alors, c'est une ferme sur laquelle on s'est installé en 2008, qui a été achetée par la communauté de communes du plateau de Jansioux à l'époque. Favorable au projet qu'on leur avait présenté, qui était un projet de mise en place de pratiques agricoles douces en faveur de la biodiversité. La ferme, dans ses grandes lignes, elle comprend 60 hectares de landes et de tourbières, non, même 80 hectares, pardon, de landes et tourbières, une vingtaine d'hectares de prairies, une vingtaine d'hectares de boisements, plus ou moins spontanés. Donc voilà, pour une SAU, plus exactement SAU surface agricole utile de 104 hectares. Alors. Et sur cette ferme, on élève donc des brebis limousines qui nous sont parus les animaux les plus adaptés à gérer des milieux en faveur de la biodiversité. Voilà.
Alors il y a aussi la particularité, c'est que ces hectares, ça n'est pas que des prés ou des prairies.
Non, tout à fait. Il y a une petite partie de prairies, puisque voilà, il y a une vingtaine d'hectares dits productifs sur lesquels on peut à la fois faire pâturer ou faire de la récolte de foin selon l'orientation qu'on donne. Et l'essentiel de la ferme est composé de landes et de tourbières, donc des landes des milieux secs et des tourbières des milieux humides.
Après un mois de juillet déjà très sec, le département de la Creuse a connu en août un déficit de pluviométrie de 80% et entre 20 et 30% d'ensoleillement en plus, c'est-à-dire une couverture nuageuse moins présente. Le comité sécheresse de la direction départementale des territoires de la Creuse a pris un double arrêté valable jusqu'au 30 septembre, déclarant le département en zone d'alerte et de crise pour limiter l'usage de l'eau et préserver ainsi l'abreuvement des animaux et l'eau potable. En résumé, cet été 2016 a été l'été le plus sec depuis 1975. Comment vous avez vécu cet été? Comment vous l'avez géré à la ferme de Lachaud?
Alors on l'a vécu sous le soleil, comme tout le monde, avec le côté agréable effectivement des vacanciers qui passent et qui sont contents d'être sous le soleil, et dans l'attente assez régulière du fait qu'il pleuve, mais il n'a pas plu, donc on l'a passé surtout à adapter et à réorienter éventuellement nos pratiques pour réagir à la situation qui était celle de cette année. Après, les réorientations, elles touchent vraiment ce qu'on fait depuis les quelques derniers jours, parce que pour l'essentiel de l'été, on a pratiqué ce qu'on pratique en fait depuis déjà 2011, à savoir une période estivale quand il fait sec, où on met les brebis et leurs agneaux dans les tourbières, dans les milieux humides, qui sont vraiment nos milieux de prédilection pour la période estivale.
Justement, je voulais en parler. Est-ce que vous avez déjà connu des étés aussi difficiles que celui qui vient de passer ? Tu parlais de 2011. L'été dernier n'a pas été simple non plus, je crois.
L'été dernier, on était déjà en situation de sécheresse, avec une sécheresse tout à fait différente par rapport à celle de cette année.
C'est-à-dire ?
Dans la mesure où l'année dernière, en fait, il n'y avait pas eu d'eau très très tôt dans l'année, dans l'hiver. En fait, l'hiver a été très peu pluvieux. Le printemps, très peu d'eau, ce qui fait qu'on a fait très peu de foin. Et il n'a pas plu juin, juillet, août. Les premières eaux sont arrivées fin août, ce qui nous a sauvé l'automne. Mais donc ça nous semblait une sécheresse très, très importante. Mais pour autant, les prés sont restés verts. Ça a arrêté de pousser, bien sûr. C'est devenu très immobile, mais c'est resté vert. Il y avait de la rosée, il y avait des températures chaudes, mais pas aussi excessives que cette année, et dans des écarts de température pas aussi excessifs que cette année. Cette année, ça a été très, très différent, dans la mesure où l'hiver a été très, très pluvieux. En fait, on passe sur un régime où, grosso modo, on a deux saisons. Une saison des pluies et une saison sèche. On dirait qu'on s'oriente vers ça. Donc, un hiver très, très pluvieux, jusque fin juin. Et 25 juin, plus une goutte d'eau jusqu'à, grosso modo, la semaine qui vient de passer. Un tout petit orage, mais pas d'eau qui mouille. Et ça, additionné de températures très chaudes et par moments aussi très froides, font que la situation est très très différente, mais plus accentuée, plus violente, entre guillemets, quoi. Par contre, le fait que le printemps était très pluvieux, on a fait du très beau foin, beaucoup de foin, plutôt en grosse quantité et de très très bonne qualité, en tout cas pour le plateau. Voilà, donc une situation très très différente par rapport à celle de l'année dernière.
Donc une année 2015, un été 2015 difficile, un été 2011 difficile. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience ces deux étés ?
Alors, 2011, c'était aussi une année de sécheresse. Alors nous, enfin sur la ferme qu'on reprenait, hein, donc on s'est installé en 2008.
Donc après 3 ans.
Après 3 ans, en fait même après 2 ans, en 2010, on avait déjà un peu un effet de sécheresse qui ne s'était pas beaucoup senti chez les voisins, parce qu'il y avait un déficit en foin, mais pas énorme.
Chez nous, les voisins immédiats.
Les voisins immédiats. Hein. Mais nous, sur la ferme, on avait déjà en 2010 un gros déficit de foin. Et en 2011, deuxième année, pour le coup, vraiment de sécheresse dans cette période-là, ce qu'on a pu entendre dire, c'est que les uns les autres avaient fait 50% de leur foin, et nous, on n'en avait pas fait 20%. Donc pour nous, 2011, ça a été vraiment une année très très difficile. Très peu de foin, très peu de stock. Et à l'époque, on était encore sur un système où on avait une grosse période d'hivernage en bergerie, et une période de pâturage, grosso modo 6 mois de pâturage et 6 mois d'hivernage. En ayant fait très très peu de foin, on a dû en acheter beaucoup pour assurer Alors, notre hivernage.
Beaucoup, ça veut dire quoi ?
Beaucoup, ça faisait un semi, je ne sais plus en tonnes combien c'était, mais il y en avait un gros paquet qui venait de très loin. On avait acheté du foin bio puisqu'on s'est installé en bio, qui était très cher et qui pour autant n'était pas de bonne qualité. Oui, il y avait un semi complet, on avait fait venir un semi complet de foin pour passer l'hiver. Et à partir de cette année-là, vraiment, on s'est dit, mais ça va pas, notre système, il est pas cohérent avec la ferme qu'on a. Sur cette ferme-là, on a nos envies initiales, c'était vraiment de trouver quel type de troupeau, quel type de troupeau on pouvait mettre pour être le plus autonome possible sur l'espace qui nous était dédié. Et là, on voyait bien qu'il y avait un truc qui frottait fort. Alors, la ferme n'était pas en état, donc c'était aussi la période de remise en état. Mais voilà, quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, à partir de cette année-là, on a beaucoup travaillé avec un petit groupe d'éleveurs du FRCVAM qui se posent vraiment des questions sur comment valoriser la végétation qu'on a sur place, quel que soit notre territoire. En tout cas, enfin, là, on parle du plateau de Mille Vaches, mais la réflexion pourrait avoir lieu ailleurs. Comment on valorise et on utilise ce qu'on a pour construire une végétation qui puisse être utilisable par les bêtes un maximum de temps dans l'année, au lieu de se baser sur ce qui a été inscrit par les grands courants agricoles, de fonctionner sur du stock. Le stock étant le foin. Du coup, voilà, comment se défaire un peu de ce stock pour vraiment travailler sur les milieux et le pâturage de ressources sur pied, on dit.
Alors, le FRCVAM, c'est la Fédération Régionale des Centres d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture en Milieu Rural. Vous avez commencé à réfléchir à ça en 2011. Quelles étapes ont eu lieu depuis ? Enfin, comment vous avez réfléchi à la fois au terrain sur lequel vous vous trouviez, aux bêtes que vous aviez ? Et à la biodiversité, enfin, je sais pas si je suis clair.
Le fil conducteur, c'était vraiment comment on diagnostique qu'est-ce qu'il y a sur la ferme, quel type de milieu, quelle diversité on a sur la ferme, et comment cette diversité de milieux-là, on va éventuellement l'accentuer, en tout cas la prendre en considération telle qu'elle est, l'accentuer et la faire évoluer pour pouvoir couvrir les besoins des bêtes sur la plus longue durée possible.
Alors, quel rôle jouent les tourbières ? Puisqu'on l'a dit, les tourbières sont une des composantes de la ferme de La Chaux.
Les tourbières, elles jouent un rôle fondamental, puisque sur notre ferme, elles sont importantes en surface. Et elles jouent un rôle fondamental dans le sens où, dans les tourbières, il y a un certain nombre de plantes, dont une graminée très, très abondante, la Molini, qui va pousser début juin, par exemple, début juin, et qui va pouvoir être consommé, pas forcément juste au moment pile poil comme une prairie où il faut aller la chercher, et c'est que à ce moment-là qu'on peut la pâturer, mais elle va pouvoir être pâturée pendant toute la période estivale. Ensuite, si on fait un pâturage précoce dans ces milieux-là, on pourra faire un deuxième pâturage dans ces milieux-là, mais avec une grande souplesse sur le moment où on va chercher la ressource dans ce milieu.
Ça veut dire qu'il a fallu vous pencher vraiment sur les différents types, sur la faune précise de des tourbières, parce que j'imagine qu'il y a différentes tourbières,
oui,
et que vous fassiez une sorte de liste des différentes plantes consommables par les...
On n'est pas passé par ce stade-là, on est plutôt passé par, tiens, la tourbière, elle est en quel état d'un point de vue de l'agriculteur et donc des bêtes qui vont s'y nourrir. Est-ce que c'est une tourbière qui est très très fermée ou très très riche en moulinie, mais il n'y a que de la moulinie, donc peu diversifiée, peu intéressante parce que peu riche pour les bêtes, peu riche en termes de diversité, ou est-ce que c'est une tourbière très très mouillée et du coup pareil, pas grand chose à manger, et du coup de voir voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher, comment on va pouvoir faire évoluer ce milieu-là pour le diversifier, pour offrir aux animaux une ressource la plus diversifiée. Au lieu de manger que de la salade, elles vont manger de la salade, des haricots et des petits pois. Quoi.
Alors avant de savoir si les tourbières ont évolué, est-ce que le troupeau que vous aviez à l'époque était adapté à ces tourbières ou est-ce qu'il a fallu revoir le cheptel ?
Non, le troupeau, il était pas spécialement adapté, mais par contre, la brebis limousine est une brebis rustique.
Par rustique, on entend...
Capable de valoriser des milieux qui sont plus rudes, entre guillemets, et des espaces plus rudes que simplement des prairies de plaine. Très riches, mais qui vont bien... Enfin, elles pourraient s'adapter en plaine, il n'y a pas de souci pour la limousine, mais elles ont cette faculté-là de pouvoir bien valoriser des milieux de là où elles viennent, en fait, donc entre autres du plateau limousin. Et la souche qu'on avait était relativement rustique, avait déjà des habitudes alimentaires assez diversifiées. On les a pris chez des éleveurs qui avaient des pratiques où elles pâturaient autre chose que des prairies. Mais on voit qu'au fur et à mesure des années où on leur présente d'autres végétations, le régime alimentaire se diversifie et elles sont de plus en plus capables de manger des végétaux qu'elles n'auraient pas mangé il y a 8 ans, par exemple. Et ça, c'est vachement intéressant parce que à la fois on fait évoluer les milieux et à la fois on fait évoluer le comportement des animaux qui eux-mêmes l'apprennent à leur rejeton et qui font que on trouve de l'harmonie entre des espaces et des espèces.
Alors en quoi les tourbières ont-elles évolué depuis 2011 ? Qu'est-ce que vous avez fait ou ne pas fait ?
Les tourbières, elles ont évolué, elles, en termes de diversité floristique. Donc, les endroits où il y avait vraiment que de la moulinie, par exemple, le fait d'avoir pâturé de façon assez intensive, on va dire, fait qu'on a réduit un peu les toiradons de moulinie et qu'aujourd'hui, entre ces toiradons, il y a d'autres végétaux qui progressent. Et donc, vraiment, il y a une diversité de la flore qui s'installe et qui continue d'évoluer. Et il y a aussi notre regard, enfin, je pense que ça c'est vachement important, qui a changé, parce que la première fois qu'on a mis les bêtes dans les tourbières avec des agneaux, plein d'éleveurs nous disaient waouh, c'est un peu risqué quand même de mettre des bêtes à fort besoin dans ce genre de milieu. Donc la première année, on n'était pas très rassurés. Et puis, ça a démarré en 2011-2012. Aujourd'hui, on n'a plus d'inquiétude sur le fait que les tourbières sont vraiment en capacité de nourrir des mères qui alimentent leurs jeunes et que les jeunes se développent bien. Donc on fait un premier passage avec les mères et leurs jeunes. Et ensuite, on va faire un deuxième passage plus tard, une fois les jeunes sevrés, où il n'y aura que les mères. On ne se permet pas, par contre, de faire un deuxième passage avec les jeunes pour des risques... Enfin, ça, c'est valable pour toutes les surfaces pâturées, pour des risques de parasitisme, les jeunes étant plus sensibles aux parasites.
Ça, c'est pour les passages en tourbière. Et du coup, ça se passe comment pour les prairies, puisque j'imagine que vous avez aussi des prairies ?
Oui, on a un petit peu de prairies, donc une vingtaine d'hectares de prairies. On fait, en fait, quand on est toujours encore un petit peu en bergerie, on a beaucoup, beaucoup réduit notre période en bergerie pour les bêtes.
Alors, réduit par rapport à ce que vous faisiez au début ou par rapport aux normes nationales des éleveurs ?
Par rapport à ce qu'on faisait au début. Donc, au début, on était presque à 6 mois. Enfin, ça dépendait des années, mais autour de 6 mois, on va dire grossièrement, autour de 6 mois en bergerie. Aujourd'hui, nos pratiques, nos changements de pratiques, l'évolution des milieux nous permettent de naître en bergerie plus que 2 mois, 2 mois et demi.
Donc d'accord,
c'est une grosse réduction.
Pour combien de temps pour un éleveur plus classique, j'ai envie de dire ?
Je ne sais pas s'il y a des éleveurs classiques, je pense qu'il y a chaque éleveur...
Ma formule est maladroite, mais est-ce que vous avez une idée d'une moyenne nationale du temps en bergerie ?
Je pense pas qu'il y ait une moyenne nationale. En tout cas, nous, quand on s'était inspiré de ce que faisaient des éleveurs dans le coin, c'est un peu ça qu'on nous avait conseillé de faire. 6 mois dehors, 6 mois dedans. Au niveau national, je pense qu'on ne peut pas dire parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Ici, on est arrivé, on nous a souvent dit on creuse, l'hiver est long et rude. Voilà, donc il y a beaucoup besoin de faire du stock pour les bêtes parce que cet hiver est long. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur un autre dynamique, à cause des tourbières, mais à cause des landes aussi, il faudra qu'éventuellement on évoque ça, parce que c'est la diversité des milieux qui fait que vraiment, on a des choses différentes à pasturer en fonction des saisons, qu'elles soient très accentuées liées au changement climatique ou qu'elles soient simplement les saisons qu'on a pu connaître, quoi.
Et ben justement, parlons des landes. Comment vous décririez votre modèle de pâturage aujourd'hui en 2016 avec à la fois les landes, des terrains boisés aussi je crois, les tourbières et les prairies?
Donc pour finir peut-être sur les tourbières vont nous servir essentiellement en période sèche, qui peuvent correspondre à l'été ou à des périodes intermédiaires. En tout début de sorte de printemps, fin d'hiver, printemps, on va aller chercher la végétation là où elle pousse en premier. Ça peut être en sous-bois. Assez souvent, c'est en sous-bois qu'il y a les premières pousses d'herbes. Et sinon, c'est sur les prairies où on fait ce qu'on appelle un déprimage, c'est-à-dire un petit pâturage très rapide qui ne va pas compromettre
le
foin, voilà, qui va éventuellement améliorer la qualité du foin, mais pas compromettre le fait de pouvoir faucher. Donc un petit pâturage sur les prairies, et ensuite, dès que la météo le permet, on descend dans les tourbières. Donc par exemple, cette année, comme le printemps était très pluvieux, on est descendu très tard, à savoir fin juin, alors que d'habitude, on est plutôt à descendre début juin. Ensuite, tant que la période est sèche, on reste en tourbière. Donc là, depuis 2 ans, on est 3 mois consécutifs en tourbière, voire plus cette année. On suit la météo par rapport à ça. Hein. Et assez classiquement, à l'automne, donc excepté cette année, on refait un tour sur les prairies, sur les repousses de fauche. Et ensuite, on va attaquer le début d'hiver et tout le cœur de l'hiver avant de rentrer en bergerie sur les landes. Et ça, c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, on a des milieux humides pour les périodes sèches et des milieux secs pour les périodes humides.
Et c'est quoi les particularités des landes en termes de faune ?
De faune, de flore en tout cas ?
De flore, oui, pardon.
En termes de flore surtout, c'est que ce sont des milieux qui sont surtout composés de sous-arbrisseaux, donc des petites plantes ligneuses pour certaines d'entre elles qui restent vertes, y compris l'hiver, et donc qui sont autant de sources alimentaires appétantes pour les animaux à une période hivernale, donc par exemple le genêt à balai, la jonin, ce sont des plantes qui sont consommées par les brebis l'hiver sans aucun problème. Et donc c'est une richesse sur pied qu'on a tendance à oublier assez vite en fait.
Et du coup, genêt et ajonc, c'est des légumineuses, ça apporte des protéines aux bêtes, et donc ça c'est vraiment de qualité, ça pousse tout seul, c'est ici, ça vient là spontanément, c'est ça qui est extraordinaire. Elles sont capables, justement parce que les milieux sont diversifiés, de manger des espèces très tanniques qui en pur seraient toxiques, comme les calunes, les bruyères, etc. Mais du fait que ce sont des landes qui sont diversifiées, elles vont pouvoir consommer ça et passer aussi très bien l'hiver, en tout cas une partie de l'hiver sur ce type de milieu. Pareil, là au début quand on a commencé, on n'était vraiment pas rassurés parce que c'est une période où nous les bêtes sont en gestation et on se demandait mais est-ce que ça va être possible d'avoir des bêtes qui sont en gestation, donc qui commencent à avoir des besoins aussi conséquents sur ces milieux un peu rudes, un peu secs, un peu ligneux et en fait voilà, ça y est, là-dessus on est rassurés. Vraiment, les brebis, alors qui sont des brebis rustiques, hein, sont vraiment capables de valoriser ces milieux pour sortir de très beaux agneaux destinés à la consommation. Quoi.
Avec ce modèle de pâturage, vous avez du coup, vous le disiez, 2 mois et demi, 3 mois de le troupeau en bergerie. Est-ce que ça réduit pas aussi l'impact du travail mécanique sur les différentes parcelles ?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que du coup, à manger de la ressource sur pied avec nos bêtes, on mange à la fois une ressource qui est écologique et économique. Elle ne coûte rien par rapport à du stock de foin qui veut dire mécaniser et donc cramer de l'énergie fossile, etc. Ça ne coûte rien. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire.
Non seulement ça ne coûte rien, mais c'est au plus une ressource alimentaire qui est résiliente par rapport au changement climatique, par rapport à du foin. C'est beaucoup plus sûr de s'appuyer sur de la tourbière ou du genêt à balai que sur de la prairie de pâturage.
Est-ce que tu peux préciser la notion de résilience climatique ?
C'est la capacité à résister à un événement aléatoire, quel qu'il soit, par exemple climatique. Par exemple, sécheresse de cette année, les prairies sont cramées, il n'y a plus rien à manger. Sécheresse de cette année, il y a toujours à manger dans les tourbières. La tourbière est tellement gavée d'eau sur son épaisseur que même si elle a eu tendance à sécher cette année, la productivité végétale n'est pas devenue nulle, mais elle a continué à être là et à permettre de soutenir des troupeaux.
Et c'est ça qui nous a marqué, je pense, depuis 2000. Donc pour ces deux premières expériences de sécheresse qu'on a vécues, 2010-2011 et maintenant confirmées par 2015-2016, c'est qu'en fait, quand on parle de l'impact de la sécheresse pour les milieux agricoles, c'est directement l'impact de la sécheresse sur les prairies. Et c'est les prairies qui sont beaucoup plus sensibles que tout le reste à ça. Et c'est ces milieux-là sur lesquels on compte énormément quand on veut affourager beaucoup les bêtes, qui sont les plus sensibles au changement climatique, qui vont ne faire que cesser de s'accentuer. Donc,
ça veut dire aussi que les landes et les tourbières, qui sont classiquement considérées comme des milieux pauvres et improductifs, sont en fait riches et abondants. Là, il n'y a qu'à se servir.
Qu'est-ce qui fait que les landes et les tourbières ont été considérées comme étant des milieux pauvres ? Est-ce qu'il y a un siècle, ils étaient déjà considérés comme des milieux pauvres par les éleveurs sur le plateau ?
Non, il y a un siècle, c'était considéré comme des milieux prioritaires dans les exploitations agricoles, les zones humides. Mais elles n'étaient pas traitées de la même façon. Certaines étaient rigolées, certaines zones de tourbière étaient utilisées comme prêts de fauche même, parce qu'à l'époque, les foins se faisaient à la main. Alors que si on va faire les foins dans une zone humide avec un tracteur, on plante le tracteur. Donc ça veut dire que toute l'utilisation de l'espace a été modifiée en très peu de temps. Et donc des milieux qui pouvaient être considérés comme riches à une époque ont été considérés comme pauvres, tout simplement parce qu'on ne peut plus les utiliser si on a en optique une mécanisation des pratiques, en fait.
Ça a été aussi consécutif à des orientations agricoles qui ont vraiment changé, et notamment une demande d'augmentation des gabarits des bêtes, par exemple.
Qui remonte à quelle date ?
Ouais, grosso modo, c'est un siècle quand même. Enfin, ça s'est fait progressivement, mais sur le dernier siècle, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et du coup, on est arrivé avec des bêtes, avec des gabarits tellement importants, motivés aussi par l'après-guerre, les famines, etc., hein, qu'on a eu des bêtes qui n'étaient plus suffisamment résistantes, devenues trop lourdes pour bien valoriser ces milieux. Et du coup, il ne s'agit pas pour moi qu'on revienne en arrière à rechercher des anciennes pratiques, etc. Il s'agit comment on construit l'agriculture de demain, en sachant que les changements climatiques, on est dedans et on y va. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui dit que ça n'existe plus maintenant. Mais comment on fait pour continuer à s'adapter, que l'agriculture continue à s'adapter en bonne intelligence avec les milieux. Et pour l'agriculture, mais aussi le côté qu'on n'a pas trop évoqué, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de travailler sur la biodiversité sauvage et que nos pratiques agricoles contribuent à permettre à d'autres organismes que nous et que les espèces domestiques de vivre dans les milieux qui sont les leurs aussi, quoi.
Est-ce que ce respect de la biodiversité et le fait que d'une agriculture non mécanisée, c'est ce qui correspond à la pratique agricole douce dont Johanna parlait tout à l'heure ?
Est-ce que le respect, c'est Lorraine qui vient de poser une question et vous n'aviez pas de casque, est-ce que le respect de la biodiversité avec un usage mécanique amoindri, c'est ce que ça correspond à ce qu'on appellerait l'agriculture douce ? Ce dont tu parlais tout à l'heure ?
Les pratiques agricoles douces.
Les pratiques agricoles douces.
Ah, pour nous, en tout cas, oui. Pour nous, derrière mettre en place des pratiques agricoles douces, il y a effectivement limiter la mécanisation et donc limiter l'usage d'énergie fossile et travailler plutôt avec la nature qu'à l'encontre de la nature. Du coup, voilà, on cherche plutôt comment on peut cohabiter dans nos pratiques et avec les milieux qui nous entourent, plutôt que de les transformer forcément par des intrants, quels qu'ils soient énergétiques ou chimiques ou autres, qui ne nous correspondent pas en tout cas.
Tout à l'heure, on a évoqué le groupe Herbe de la FRCIVAM, la Fédération Régionale des Centres d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture en Milieu Rural. Comment vous les avez rencontrés ? Comment vous avez travaillé avec ces gens-là ? Est-ce que c'est vous qui les avez contactés ? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous ?
Bonne question. Le premier contact, je ne me rappelle plus bien comment ça s'est passé. J'imagine qu'on les a contactés, je ne me rappelle plus bien. Et après, c'est vraiment des échanges et des rencontres. C'est très chouette parce que on avance beaucoup entre paysans par des visites de ferme. Et sur une ferme d'un voisin ou un autre voisin, on va voir, on va se questionner sur les questions et les problématiques que la personne a à ce moment-là. Et on essaye d'avancer ensemble sur comment les uns et les autres on a pu répondre à ça, comment on s'interroge encore, comment on fait évoluer nos pratiques pour être le plus autonome possible, en fait, c'est ça. Et en se disant bien que l'agriculture, son efficacité, y compris économique, elle vient aussi de, non pas forcément de toujours faire plein d'emprunts, de charges, etc., mais au contraire, réduire un maximum les charges et de s'adapter au milieu dont elle dispose. Quoi.
Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai vu que l'objectif de cette FR CIVAM, c'est de valoriser la valorisation pastorale des milieux atypiques. Est-ce que vous avez visité des fermes atypiques dans le sens où ce n'était pas des tourbières ?
Oui, y a d'autres fermes qui ont une problématique entre guillemets beaucoup plus centrée sur les landes ou sur les landes à myrtilles, par exemple Cédric de Guillaume dans les Monédières. Après, il y a d'autres fermes où, nous on a une grosse proportion de tourbières, mais dans d'autres fermes c'est pas les mêmes proportions. Et donc trouver la quadrature du cercle pour que le troupeau vive l'intégralité de l'année sur la ferme, elle est toujours à décortiquer et à trouver sur la ferme elle-même. Et donc, on ne sort pas un modèle, on sort des pistes sur lesquelles les uns et les autres réagissent. Quoi.
L'idée de ce groupe de travail, c'est de mutualiser les questions et surtout les réponses à ces questions. Est-ce qu'il y a déjà eu des visites de la ferme de la Chaux organisées ?
Oui, on en fait quasiment une par an. En fait, on en fait plusieurs dans l'année chez les uns les autres. Et puis aussi, ce qu'on fait de plus en plus, c'est accompagner des gens qui sont en cours d'installation.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous prêchez des gens qui sont déjà convaincus ou est-ce qu'il y a aussi des personnes qui s'installent, qui n'ont pas encore fait de choix clair sur la façon dont ils allaient gérer leur... j'aime pas le terme d'exploitation, leur ferme, et qui viennent voir ce qu'on peut faire
Ouais, donc on rencontre pas mal de gens qui sont en questionnement. Enfin, du moment où le problème, c'est que la formation agricole, elle donne pas beaucoup de billes sur ces questions-là et elle ouvre pas forcément beaucoup les possibles. Mais à partir du moment où la personne est intéressée par nous rencontrer et se pose des questions sur comment valoriser au mieux sa ferme, effectivement, il y aura toujours un groupe de paysans susceptibles de réagir et de répondre et dire ouais, ok, on est là et on peut venir sur ta ferme, voir comment ça se passe et voir quelle piste tu pourrait creuser. Après, ça se passe sur des gens à l'installation, mais j'ai aussi l'exemple de la famille CAC près de Saint-Léonard, où eux, ils étaient installés depuis longtemps en conventionnel et ils ont eu des charges énormes et des charges vétérinaires énormes, et à un moment donné, ça n'a pas pu tenir, et pourtant, ils étaient vraiment passionnés par leur métier. Et la rencontre avec ce groupe-là, enfin, un autre groupe, mais équivalent, parce qu'on est plus par zone géographique, ont fait qu'eux, ils ont complètement réorienté leur ferme et réduit leur charge, réduit leur nombre de bêtes. Et aujourd'hui, ils s'en sortent à merveille avec vraiment des bêtes qui vont très bien et une exploitation qui tourne très très bien. Alors, donc ça te concerne y compris des systèmes en place ou des gens qui s'installent. Et voilà.
Si je comprends bien, la formation agricole n'encourage pas forcément à se diriger vers ce que vous faites. C'est quoi la formation agricole classique et vous, qu'est-ce que vous avez comme formation ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez
moi,
envie ?
Moi, j'ai fait un BPREA au Vazet à Limoges. Ce qui était très bien, c'est que ça a légitimé pour moi le fait de faire des stages et donc de m'immerger vraiment dans des exploitations agricoles.
Le début, tu avais déjà l'envie de faire autrement ? Enfin, je veux dire de...
Moi, je suis issu plutôt de la conservation de la nature. J'ai travaillé en association de protection de la nature. Et donc, j'avais cette question-là. Et notamment, j'ai travaillé sur, en zone de plaine céréalière sur des cortèges d'oiseaux qui sont inféodés au milieu agricole, mais qui n'ont pas du tout supporté l'intensification agricole de l'après-guerre. Donc j'étais sensible à ça. Comment on peut faire une agriculture qui soit quand même favorable ? Est-ce qu'il y a une rencontre possible entre agriculture et biodiversité ? Donc j'avais ça. Et dans la formation, on basait, alors bon, c'était encore l'ancien programme, hein, on n'a jamais abordé une quelconque rencontre possible entre agriculture et biodiversité. Et de ce que j'en sais, là, pour avoir un peu suivi des personnes qui ont fait un BPEA il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas entendu beaucoup parler de ça non plus, quoi.
Pour revenir au sujet, au premier sujet qui m'a donné envie de vous inviter, à savoir la sécheresse, le troupeau ne fait pas que brouter, il a aussi besoin de boire. Est-ce qu'il a souffert du manque d'eau cet été ?
J'ai cru à un moment donné, mais en fait, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps dans les fonds humides, déjà dans les fonds humides, il fait plus frais de toute façon. Ensuite, il y a des arbres et arbrisseaux sous lesquels les bêtes se mettent à l'ombre à l'heure la plus chaude, donc on voit qu'elles y sont bien. Et on a fort heureusement un ruisseau qui traverse le fond des vallées qu'on a. Donc les bêtes pouvaient encore s'abreuver. Sauf que, comme je disais, cette année, ça a été beaucoup plus violent que l'année dernière. Les deux sources du village ont été taries mi-juillet, alors que c'était arrivé mi-août l'année dernière. Et la Gane, qui passe en bas de la ferme de la Chaux, a cessé de couler à un moment. Et ça, c'est arrivé juste quelques jours avant la pluie de la semaine dernière. Donc, la relève a été prise par la pluie. Mais j'ai bien cru que j'allais devoir amener de l'eau dans les tourbières pour les brebis.
Vous êtes à l'écoute du magazine de Radio Vassivière. Nous sommes en compagnie de Johanna Corbin, et de Frédéric Lagarde pour parler de la sécheresse et de son impact sur le foin. On va bientôt parler du partenariat entre la ferme de la Chaux et le Conservatoire des espaces naturels du Limousin. Juste avant, on écoute Come Rain or Come Shine par Ray Charles, Vienne la pluie.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. You're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? We're in or we're out of the money, yeah, but I'm with you always, I'm with you rain or shine. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money.
C'était Ray Charles qui nous chantait « Come rain or come shine ». Vienne la pluie, nous sommes toujours en compagnie de Johanna Corbin, éleveuse de brebis limousine à la ferme de Lachaud, ferme installée sur la commune de Jean-Sioux-Pigerolles, et en compagnie de Frédéric Lagarde, conjoint collaborateur, terme un petit peu étrange mais on va garder ce terme-là, et membre du Champ des Possibles, une association qui étudie la relation entre changements globaux et biodiversité. Juste avant qu'on écoute le génie, The Genius, Ray Charles, on parlait du partenariat entre la ferme de Lachaud et le Conservatoire des espaces naturels du Limousin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, la ferme, vous l'avez compris, présente de grandes surfaces en milieux qu'on considère comme patrimoniaux, les Landes et les Tourbières. Et donc, la tâche et le rôle du conservatoire, c'est d'essayer de gérer au mieux ces milieux patrimoniaux, parce qu'en régression à l'échelon européen. Ce qui fait qu'ils sont gestionnaires de toutes les surfaces de Landes et de Tourbières de l'exploitation. Et nous, on intervient en tant qu'agriculteur dessus pour faire pâturer les troupeaux là-dedans.
Alors, c'est-à-dire, comment se répartissent les rôles gestionnaires ? Ça veut dire qu'ils ont ils sont décisionnaires ?
Alors, on n'arrête pas de discuter ensemble, donc c'est de la co-décision. Et par exemple, quand on est arrivé, de nombreuses surfaces de landes ou de terbières étant en train de s'enforester, puisqu'elles étaient sous-exploitées, donc il y avait développement de ligneux, de petits boisements qui ont noté une certaine qualité écologique. Les clôtures étaient complètement en vrac, donc c'était difficile d'y faire pâturer les troupeaux, et donc ils ont pris en charge le montage de dossiers Natura 2000 pour permettre à la fois de réouvrir les milieux par du bûcheronnage et de reclôturer le site pour permettre à nouveau aux troupeaux de vaquer librement là-dedans et de faire le travail d'entretien du site.
Et vous, qu'est-ce que vous apportez au Conservatoire des espaces naturels du Limousin ?
Les moutons. Les moutons. Et puis, on est pas mal en discussion avec eux parce que la façon dont on a fait évoluer notre système de pâturage est un peu décalé par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc par exemple, souvent, dans les contrats mis en place avec les agriculteurs, était interdit le pâturage en hiver. Alors que vous l'avez compris, pour nous, le pâturage en hiver est crucial pour le côté économique de la ferme. Et donc en discutant longuement, maintenant, on a tous compris que le pâturage hivernal était quelque chose de très important. Et on peut se pencher maintenant sur l'évolution des milieux pour voir si ça a un impact positif ou négatif au niveau écologique.
C'est ce qui veut dire que votre expérience a fait changer la position du Conservatoire des espaces naturels sur le pâturage en hiver, dans les tourbières.
Dans les Landes, puisque hiver, c'est surtout en milieu sec qu'on fait pâturer, donc surtout dans les Landes.
Excusez-moi. Bien que les bêtes descendent quand même dans les tourbières, en fait, on réouvre. On a la chance sur la ferme d'avoir des milieux de Landes qui sont très très proches des milieux de tourbières, puisque c'est vraiment un relief de petites montagnes, enfin de petites vallées, de petites montagnes qui font qu'on a tous le gradient de milieu. Et du coup, en hiver, on a une priorité sur les Landes, mais on réouvre les tourbières et on voit que les brebis peuvent aller trouver du complément d'alimentation dans les tourbières, même en hiver.
Votre pratique au quotidien, en tout cas, amène de la réflexion et des éléments au Conservatoire des espaces naturels, ce qui nous amène à l'association Le Champ des Possibles. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter cette association ?
Alors, quand on est arrivé sur la ferme en 2008, on a créé cette association pour prendre en charge tout ce qui n'était pas agricole sur le site. Donc, à l'heure actuelle, ce qui n'est pas agricole, c'est surtout de la formation, de l'accueil, et puis un programme de recherche que l'on suit depuis 2008 maintenant, qui s'intéresse aux relations justement entre les changements globaux et la biodiversité. Et dans changements globaux, on met à la fois les changements de paysage et les changements climatiques. Donc on s'intéresse à la fois à ces interactions en ce qui concerne la faune des milieux ouverts, landes tourbières, et depuis quelques années on travaille aussi sur les milieux forestiers.
Quand tu dis « on », c'est qui ? On trouve qui dans l'association ?
Alors dans l'association, il y a essentiellement moi, les stagiaires que j'encadre, et puis on travaille aussi en collaboration avec le laboratoire de Chizé, un laboratoire du CNRS, avec lesquels on est partenaire sur les programmes de recherche que l'on peut monter.
De recherche en écologie.
De recherche en écologie, du coup.
Alors, sur quoi vous travaillez, par exemple, en ce moment ?
Alors, notre angle d'attaque, c'est de voir, par exemple, quelles sont les relations entre la structure du paysage et la biodiversité de milieux de landes ou de tourbières. Souvent, en conservation, on considère qu'en gérant un restaurant une tourbière, en restaurant la qualité d'un milieu, on va pouvoir à nouveau redonner un milieu de vie favorable aux espèces patrimoniales qui vivent dans ce milieu, et le tour est joué. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, en étudiant cela sur le plateau de Mille Vaches, on a pu montrer qu'en fait, il n'y a pas que la qualité des tourbières qui jouent, mais aussi la structure du paysage aux alentours. Et cette qualité de paysage joue à poids égal avec la qualité des milieux tourbeux.
Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles la qualité des paysages ?
Ouais. Alors justement, pour comprendre ça, les tourbières, vous l'avez compris, sont des milieux assez particuliers, parce que c'est des milieux qui sont froids, humides, et qui sont riches en tout un cortège d'espèces patrimoniales, dont certaines d'entre elles sont considérées comme des reliques glaciaires. C'est-à-dire qu'on les trouve de façon très ponctuelle dans nos tourbières chez nous, et de façon beaucoup plus abondante quand on va au nord de l'Europe, du côté du cercle polaire. Et ces espèces-là sont toutes associées, comme toute espèce, dans un milieu donné, à une probabilité d'extinction qui n'est pas nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on suit une tourbière longtemps, une espèce, un jour ou l'autre, va s'éteindre. Alors ça, c'est un processus tout à fait naturel, qui n'est pas bien grave à partir du moment où, après extinction, le site puisse être recolonisé par un phénomène de migration, par cette même espèce par la suite. Et la qualité du paysage intervient là-dedans, parce que quand le paysage aux alentours d'une tourbière est fermé par une forte emprise forestière, par exemple, la recolonisation après extinction locale ne peut plus avoir lieu et l'extinction n'est pas compensée dans le temps. Par conséquent, les cortèges d'espèces de ces tourbières vont devenir de plus en plus rares en espèces caractéristiques de ces milieux et de plus en plus riches en espèces banales, c'est-à-dire des espèces qu'on trouve dans n'importe quel autre milieu.
C'est quoi les espèces particulières aux tourbières, l'écosystème, la faune, la flore ? Moi j'ai vu alors principalement des araignées, des reptiles et les orthoptères.
En fait, on pourrait dire tous les groupes faunistiques et floristiques, c'est des milieux qui sont tellement caractéristiques d'un point de vue physique et chimique que tous les groupes animaux ou végétaux s'y développent à partir d'espèces qui sont propres à ces milieux. Alors, je pourrais donner des noms, mais ça dirait rien à personne, parce que les petites bêtes, tout le monde s'en moque.
Non, au contraire, allons-y.
Niaphosa nigerrima, Héliophanus d'Amphi, on pourrait continuer la liste, c'est doux à l'oreille.
Alors, c'est quoi ? Ça, c'est des insectes ?
Ça, c'était des petites araignées, voilà, par exemple. Mais voilà, c'est des espèces assez intéressantes, parce qu'elles sont présentes sur notre territoire que sur des distributions très morcelées, puisqu'elles ne peuvent rencontrer un milieu de vie qui leur est favorable que dans ces poches à froid que sont les tourbières.
Est-ce que vous avez constaté ce que tu expliquais tout à l'heure, l'extinction d'une espèce sur la ferme de Lachaux et puis finalement sans recolonisation derrière ?
Alors ça, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions, parce que autant on peut être sûr d'une preuve de présence, autant il est difficile d'être sûr d'une preuve de l'absence. C'est pas parce qu'on voit pas une bestiole qu'elle est disparue, c'est simplement peut-être parce qu'on l'a loupée. Donc pour être sûr de ça, il faut faire des études sur le très long terme, et c'est pas en 8 ans qu'on peut répondre à ce genre de questions. Donc on aborde plutôt ce genre de problème en suivant une multitude de sites différents. Voilà. Et en examinant les cortèges dans des sites différents, on en a suivi une trentaine sur le plateau de Mille Vaches, et là on peut comparer les communautés et voir dans quel contexte ces cortèges d'espèces sont plus ou moins riches et à quoi cette richesse spécifique est-elle due. Mais être sûr de l'extinction d'une espèce, il y en a encore pour lesquelles on ne sait pas grand-chose.
Alors, sans répondre à cette question, est-ce que vous avez noté des évolutions notables dans les tourbières depuis 2008 ?
Depuis 2008, il y a évolution. Oui, alors. deux choses. Déjà, des évolutions notables dans les conséquences que peuvent avoir les modes de gestion, par exemple des landes, sur les communautés d'animaux qui s'y développent. Et c'est là où on va voir des points de convergence entre les intérêts agricoles et les intérêts de conservation. Quand un gestionnaire arrive pour gérer une lande, souvent il considère que la lande a tendance à s'enfricher parce qu'il y a des petits arbustes qui poussent dessus, il y a des genêts à balais qui poussent dessus. Et l'une des interventions classiquement réalisées jusqu'à présent, c'est de passer tout ça au broyeur pour réouvrir le milieu. En fait, c'est un genre d'intervention mécanique, n'ont pas qu'un effet sur la végétation, mais aussi un effet sur la faune. Et ce qu'on a pu montrer dans nos études, c'est que c'est un effet très négatif, c'est-à-dire que ces interventions mécaniques entraînent des disparitions d'espèces rapides, brutales, Et donc ça, c'est pas forcément grave en soi. À partir du moment où on considère que ces extinctions locales pourront être récompensées par la suite par de la recolonisation. Mais il faut savoir en écologie que les espèces spécialistes d'un milieu donné ont des probabilités de recolonisation très faibles pour toute une série de raisons. Donc c'est un pari qui est un peu tendu. Et donc ce genre de résultats montre que réouvrir un milieu, oui peut-être, mais il faut le faire de façon sérieuse dans le temps. Par exemple, pas traiter toute une lande d'un seul tenant de façon mécanique brutale, mais le faire par petites touches pour que les zones traitées puissent être recolonisées par les individus venant de zones non traitées voisines.
Ou le faire avec les bêtes, ça veut dire prendre son troupeau et ouvrir le milieu avec le troupeau. Ça prend plus de temps, mais ça marche aussi et ça évite de faire partir une énorme biomasse en fumée, comme ça a pu être fait sur le site de la Chaume et comme sur d'autres sites aussi, par réouverture rapide.
Et c'est là où il y a convergence entre un intérêt agricole et un intérêt de conservation. Parce que du point de vue agricole, on a vu, le gêner à balai, c'est une richesse. Donc pourquoi le broyer? Et d'un point de vue de la conservation, tout broyer, c'est pas bien. Donc là, il y a un point d'accroche très fort entre ces deux approches.
Et à très court terme, est-ce qu'il y a eu un impact de la sécheresse de cette année sur l'écosystème des tourbières et des landes aussi de la ferme de la Chaux?
Alors, il y a des choses qui ont été vues, hein. Il y a pas mal d'espèces d'oiseaux dont la nidification a été ridicule cette année. Je pense en particulier aux pigrièges grises, aux cirquets de Jean Leblanc, où ça a été le fiasco complet. Sur la petite faune, c'était beaucoup moins foisonnant. Mais après, toujours pareil, c'est difficile de dire tout de suite si ça va avoir un impact négatif
durable.
Sur le moyen durable. Voilà. Pour ça, il faut regarder dans le temps si les cortèges ont tendance à s'appauvrir ou pas. Alors là-dessus, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on parle de changement climatique. Et bien entendu, les scénarios de changement climatique prévoient que les températures moyennes vont augmenter dans les prochains siècles. Et on est déjà dedans depuis des lustres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du quaternaire récent, on est passé par des périodes où les températures étaient plus élevées qu'à l'heure actuelle. Moins 3000, plus 700. Et malgré ces températures plus élevées, les espèces ont réussi à s'en sortir. Alors elles ont réussi à s'en sortir, peut-être aussi parce que le paysage gardait ses fonctionnalités écologiques et que les espèces arrivaient à migrer librement dans le paysage pour trouver les micro-habitats qui leur étaient favorables. Et c'est là où, à l'heure actuelle, il y a un problème. Est-ce que nos paysages sont toujours favorables à cette libre dispersion des espèces pour leur permettre de trouver leur optimum microclimatique et de faire face au changement climatique actuel?
Pour rester sur la biodiversité, il y a eu beaucoup d'eau au printemps, en mai et en juin. Est-ce que ça a favorisé l'apparition des parasites dans les tourbières par rapport aux brebis?
Eh ben, moi, je craignais pas mal ça. Or, comme ça a été suivi par une période très sèche, j'ai pas pu constater, en tout cas, qu'on ait été particulièrement parasité cette année. Ce qui était très visible, c'est que pour les agneaux, le printemps très humide était difficile au niveau des pieds, parce que les agneaux ont les pieds fragiles, les ongles encore fragiles. Et donc voilà, il y avait pas mal de boiteries, mais ça s'est soigné assez facilement. Et après la période de sécheresse, c'est clair, les moutons, ils préfèrent quand il fait sec que quand il fait humide. Hein. Donc voilà. En termes de parasites, ça n'a pas été une année très difficile.
On parlait du foin au début. Vous aviez eu un semi-remorque, un entier, c'est ça, en 2011, oui. Pour compenser les pertes de foin. Là, vous avez une année difficile en 2016, une année difficile en 2015. Mmh. Est-ce que vous avez dû faire appel à du foin extérieur?
Alors, du coup, notre changement de pratique fait qu'on a diminué par deux notre besoin en foin, ce qui est considérable. Et en 2015, donc l'année dernière, où on avait fait globalement très peu de foin et pas de regains, il nous a manqué une dizaine de bottes. Donc voilà, on était quand même quasiment à l'autonomie, donc c'était un petit chouïa supplémentaire. Cette année, on a fait beaucoup de foin, enfin on n'en a jamais fait autant, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Sauf que par contre, autant pour les brebis, pour le cycle des brebis, tout ça, ça va bien, autant on a quand même dû réagir d'une manière qui nous est assez inhabituelle par rapport aux agneaux, c'est-à-dire que d'habitude les agneaux, on les met vraiment que sur les repousses de fauche, justement pour limiter la pression parasitaire. Et là, repousse de fauche, il n'y en a pas. Du coup, nos agneaux sont au foin, donc on commence à attaquer un peu le stock de foin, mais bon, voilà, il est tellement conséquent cette année que ça ne me semble pas très inquiétant.
Est-ce que ça peut vouloir dire que la direction que vous avez prise correspond au territoire sur lequel vous vous trouvez à la ferme de la chouette. Vous avez trouvé un modèle qui fonctionne.
En tout cas, un modèle qui est toujours en réadaptation par rapport à la situation de l'année en cours. Parce que, on voit bien que maintenant, on peut pas se dire il y a des saisons, c'est ça qui va se passer, etc. Mais depuis 4 ans, on va dire, on est complètement autonome en foin. Et donc ça, c'est vraiment une donnée importante sur une ferme. Et d'autant plus importante quand on est en bio, parce que dès qu'on fait des achats à l'extérieur, c'est des achats très coûteux. Donc pour nous, c'était vraiment une gageure d'arriver à ça. Et donc, je dirais même au-delà de ça, je pense qu'on est à une période où on pourrait envisager qu'il y ait un autre atelier qui se développe sur la ferme avec d'autres herbivores, un autre petit troupeau, et qui nous permettrait probablement d'accueillir quelqu'un d'autre à travailler sur la ferme. Du coup, ça, c'est assez enthousiasmant d'en être arrivé là.
Ces derniers jours, on a vu le retour de la pluie. Pas longtemps, mais est-ce que cette pluie, est-ce qu'elle a servi à quelque chose ou est-ce que les sols étaient trop secs pour l'absorber ?
En fait, la façon dont la pluie est tombée, à mon avis, a été vraiment très très bien, parce que ça a commencé par une toute petite pluie qui s'est progressivement accentuée, et donc les sols sont relativement bien mouillés. On aurait eu tout de suite des grosses averses, ça aurait juste glissé sur la terre qui était très très sèche. Je pense que ça n'a pas fait cet effet-là, et gros coup de chance. Après, ça commence à reverdir, c'est assez spectaculaire, moi je trouve quand même, même si c'est pas aussi spectaculaire que dans les régions du Sel ou Saint-Léo, enfin un peu plus bas en plaine. Là, je pense que le facteur limitant, c'est quand même que les nuits sont un peu fraîches et l'herbe en dessous de 12 degrés, elle pousse pas, même en dessous de 2 degrés la nuit, ça bloque. Donc de là, je pense qu'on est encore loin d'avoir de quoi manger à pâturer à l'automne sur les prairies. Mais moi, je suis assez agréablement surprise de voir comment ces prairies toutes jaunes, paillassons de cet été, sont pas complètement cramées pour de façon définitive, quoi.
Alors, une proposition a été faite récemment pour ces prairies jaunes, cramées, paillassons. Je vous propose de réagir à une déclaration de Jean-Philippe Violet, président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, qui déclarait dans La Montagne du lundi 12 septembre, je cite, ouvrez les guillemets, « Depuis 4-5 ans, il y a trop d'eau l'hiver et pas assez l'été, et ça fait des années qu'on dit « faisons des retenues », mais on ne nous a jamais écoutés. Est-ce que des retenues d'eau, ce serait une solution ?»
Nous, la solution qu'on travaille, c'est de s'affranchir le plus possible des prairies pour pâturer ce qui est disponible, quelles que soient les conditions climatiques. C'est-à-dire regarder autour de soi et tirer profit de ce que la nature nous donne.
Moi, ce que je trouve un peu inquiétant, je connaissais pas cette citation, mais à l'entendre, c'est de se dire, on peut toujours courir à plus d'artificialisation. On sait très bien faire, on sait développer des moyens techniques phénoménaux, mais à quel coût et pourquoi ? Le principe de l'agriculture, à la base, ça reste quand même de profiter de la photosynthèse pour produire de la nourriture. Du coup, moi je pense que l'enjeu il est là, plutôt que de trouver encore des moyens mécaniques, coûteux, énergétiques qui concourent toujours à artificialiser et finalement à déconnecter l'agriculture de la réalité du terrain, quoi. Et moi ça me paraît pas forcément être la voie la plus d'avenir, même si ça fait sans doute rêver la technologie, mais bon.
C'est pas la plus d'avenir, même si c'est la plus de la mode.
Ouais, il y a peut-être une différence entre la mode et ce qu'on peut imaginer qui tient sur le long terme, quoi. En fait, c'est ça aussi.
Un autre président, Jean-Marie Collomb, le président du syndicat Les Jeunes Agriculteurs, déclarait toujours dans La Montagne du lundi 12 septembre « Les animaux n'ont plus rien à manger, il n'y a pas eu de deuxième ni de troisième coupe. Aujourd'hui, on se demande si on n'est pas là juste pour entretenir les paysages. » En tant qu'éleveur, est-ce que vous avez l'impression d'être là pour juste entretenir les paysages ?
Alors, le terme d'entretenir les paysages m'embête fortement, parce qu'en fait, les paysages, c'est nous. Je m'explique, les paysages chez nous sont tout sauf naturels, et donc ils ne sont que la résultante des activités humaines qui s'y développent, c'est-à-dire sur le plateau de Mille Vaches, essentiellement l'agriculture d'un côté et la sylviculture de l'autre. Donc on n'est pas là pour entretenir les paysages, on les fait.
Oui, et moi je pense que c'est important de reconnaître à l'agriculture ses multifonctionnalités, dans lesquelles existent effectivement le fait de former, construire, transformer les paysages. Et donc voilà, c'est le moteur de l'existence des paysages aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est important de reconnaître ça. De là à dire qu'on n'est que ça, je crois pas. Et en plus, ça a une connotation un peu péjorative qui me semble décalée. Ben voilà, on est là pour plusieurs choses. Produire de l'alimentation, enfin de la nourriture de qualité, ça je pense que c'est vraiment important. Produire des paysages qui soient eux aussi de qualité, enfin voilà, c'est ce qui nous entoure, c'est là où on vit. C'est en fonction du milieu dans lequel on vit, on ne vit pas les choses de la même manière, je pense. Et de produire quelque chose qui fait que ces paysages, ils sont riches et pas juste de l'esthétique, mais quelque chose de bien vivant et propre au milieu. En l'occurrence, sur le plateau de Mille Vaches, il y a des choses quand même très, très jolies et très riches, donc pourquoi pas en profiter. Et je dirais que dans cette histoire de paysage, aujourd'hui, si on se rend compte de la richesse de ces paysages très typiques du plateau de Mille Vaches pour l'agriculture, en fait, on a vraiment un trésor avec nous par rapport au contexte de changement climatique dans lequel on est.
On va finir sur une note beaucoup plus légère. Un des points de la ferme de la Chaux, c'est aussi la transformation locale. Est-ce que vous vous attendiez au succès du kebab fermier que vous avez proposé sur le marché de Gensioux et dont on a beaucoup parlé cet été?
En tout cas, on s'attendait à rien. On a fait ça pour voir si ça ferait plaisir à des gens de manger, ce qu'on a intitulé des kebabs fermiers, savoir si nous, ça nous ferait plaisir d'en faire. Et je pense qu'il y a eu une belle rencontre autour de ça, de pouvoir, moi, je trouve ça extraordinaire aujourd'hui à Gensioux, de pouvoir produire quelque chose à manger grâce au boulanger du village, au maraîcher du village d'à côté, à nous éleveurs de ce village-là et aux fermiers qui font du yaourt de vache dans un village un peu plus loin. Et du coup, avec que des produits locaux, on arrive à faire un kebab fermier que beaucoup de gens ont très apprécié. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
À renouveler l'année prochaine. Il nous reste très peu de temps. Où est-ce qu'on trouve vos produits le reste de l'année?
Eh bien, on peut nous appeler à la ferme de la Chaux. Je donne le numéro.
Oui.
Donc au 05 55 64 54 37 ou par mail fermedelachaux@riseup.net et on fait grosso modo de juin à fin novembre des ventes d'agneaux, de viande d'agneau en fait, à peu près tous les 15 jours et de viande de brebis transformée, merguez, chipolaton, c'est chipolata de mouton, viande à tagine, viande hachée.
Johanna Corbin, je rappelle que vous êtes éleveuse de brebis Limousine à la ferme de La Chaux, ferme installée sur la commune de Gensioux-Pigerolles. Frédéric Lagarde, vous êtes conjoint collaborateur et membre du Champ des Possibles, une association qui étudie la relation entre changements globaux et biodiversité. Vous êtes venu nous parler de la sécheresse, de différents modèles de pâturage, de l'écosystème et de tout ce qu'on trouve dans les tourbières et dans les landes. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être venu à nos micros pour nous parler de tout ça.
Merci.
Merci.
Au revoir.